Ahoy tout homme, du tchèque et du catalan, pour claquer la langue et mélanger les langues s'il vous plaît. Oh mes amis de Londres, si vous saviez comme ça fait du bien de bien reparler dans le micro, et je cause pas de sexe, quoique, mais d'essayer de s'exprimer sans trop mettre de sang partout. La couleur de ce sang, c'est comme ça que je m'appelle, rouge.
Comme le sang de tes règles, tu pisses avant la chatte.
Mais non, non, espèce de folle. Plutôt comme le décalage du fond de l'univers. Et si vous êtes bien calé, on va se décaler vers le rouge. On va aller loin et sans bouger. Oh mes amis de Londres, j'aimerais vous dire ce dont il sera question dans ces prochaines minutes et d'autres minutes peut-être encore à venir. Il sera question de démystifier les mythes fondateurs et on va aller toutes et tous bien se faire voir chez les Grecs, enfin la plupart du temps. Car comme le dit aussi androgyne Aurélien Barraud, mais Dieu mais qu'il est beau, les mythes, le versant grec de notre histoire, c'est ce qui nous concerne toutes et tous complètement. Il y a d'un côté une des trois religions du livre, celle que vous voulez, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a les chrétiens, et même celles et ceux qui se revendiquent sans Dieu, bon Dieu, et dont je suis aussi. Même ceux-là, disais-je, sont concernés par le livre, chacun son bouquin. Mais elles sont toutes des religions prescriptives, qui nous disent ce qu'on doit faire. Et de l'autre côté, il y a le versant grec. Une religion non sacrée, dans laquelle rien n'est figé, où l'humanité peut même aller provoquer, mais pas trop, la condition divine de ces dieux pas si haut perchés. Bon, il y a des trucs très pourris, d'accord, qu'on va essayer de décortiquer, encore que peut-être parfois ce sera juste un prétexte pour se marrer. On va essayer d'arriver à voir, avec les oreilles, que les mythes, parfois, ça peut faire du bien. C'est le versant philosophique, politique et poétique qui nous implique toutes et tous dans tous ces mythes. Du coup, et pas de grisou, on va se griser à faire péter la mythologie. Pow ! En arpentage magnifique du fond de tous nos âges, s'agiter sans embâge, agiter du côté du passage, jamais sage, et plus maté le JT. Donc il y aura l'introduction, spection, initiation, ou ce que vous voulez, là. C'est ce qu'on est en train de faire. Et today, ce sera un petit peu long. Mais en général, c'est pas mal, une longue intro. Puis dans un second temps, qu'on sait pas trop ce que c'est le temps, mais tant pis, on déblatérera sur les mythes fondateurs sans se faire mal au fondement. Ou peut-être un peu, des fois ça fait du bien. À virer les écrans qui te mettent bien à cran et cesser de les caresser, bande d'insensés. Et oui, folles et fous que nous sommes toutes et tous. Affirmer un fou, deux fous, c'est facile, mais fait fi du faux. Car si l'on retire les mots de la bouche,
tel un forain médiéval qui vous arrachera une molaire à la place, monseigneur,
de Didier Super, qui est aujourd'hui un papy, lorsqu'il parle des pédophiles et de certains jeunes, entre autres, et que nous considérions les créatures humaines plus moins que plus ou plus que moins barrées que nous sommes, nous pouvons avancer sans trop mentir que « y en a de bien, y en a des bien. » Petite digression, viteuf. L'arracheur de dents du Moyen-Âge dont je parlais tantôt, simple forain reconverti pour l'occasion en maçon plombier de la bouche, qui opérait le plus souvent dans des foires médiévales et avait la douceur de l'ouvrier en question. Par conséquent, il était le plus souvent accompagné d'un musicien qui s'appliquait à recouvrir de ses égosillements pas très bien chantés les hurlements terribles provoqués par l'opération juste décrite. Sus-décrite, c'est pas sexuel, les gamins peuvent écouter. Donc, on se faisait arracher les dents, disais-je, en ressentant une douleur de ouf, et surtout, surtout, dans un boucan abominable destiné à masquer le hurlement terrible des patients plus très patients, du coup, faire genre « Hey, vous avez pas mal !» Ça rappelle un peu les égosillements prononcés par certaines et certains de nos politicards incertains, mais néanmoins contemporains et dûment diffusés dans nos merdias. Comprenez, merdia de merde. Expression chourave au feu brillantissime Ben Othman, que je remercie dans son honnêteté d'avoir été quand même. Lorsque les dix politiciens s'exercent à soulever des débats en toc où l'éthique est à clé. Histoire de faire diversion, entre autres, sur l'état de notre planète et de la plupart de ses habitants. Pour les exemples, il n'y a que l'embarras du choix, ma bonne dame, du saccage éhonté de notre planète mise en œuvre par une partie de l'humanité, ou la tonne de déchets dans les océans toutes les trois secondes, en passant par tous les féminicides, écocides, ethnocides et tous les mots incides à plonger dans l'acide pour en faire des cartons. Cette fucking liste est foisonnante, franchement, c'est facile. Quoique nous soyons dans une période charnière et que ça commence à bouger. En définitive, ce qui couvre le mieux le bruit de l'horreur, c'est quand nous faisons silence, cognitif, s'il vous voulez, à plus vouloir être dévot ou dire stop et cogner. Bon, fin de digression, mes amis de l'onde, mes amis miss ou mec, que j'aime vous madrigaliser en pièces vocales, bien sûr pas du 16e, ni polyphonique, mais du 21e et schizophrénique. Pourquoi tu dis ça ? Je suis saisie d'une stase sincère, ralentissement singulier ou accélération sans tase, dénoncé sonore en locution suave, stupide sûrement, et sans conteste subversive, à essayer de vous saisir, de vous asseoir sur votre esprit en assonance que voici. Celles en paix sont pas péraves, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles pallient ou aplatissent la prétention, non empathie pourrite qui pollue l'esprit, portent la personnalité à paraître presque pliable, en palier plat et pas plat, emprunté pour dépasser le passable et parvenir à ne plus être emprunté au plus près du présentement. Apprivoiser la temporalité avec un P, c'est plus qu'une épopée. Ça permet de participer au présent imparfait, précaire, pourtant précieux. C'est vrai que ce serait rigolo si on prescrivait ce genre de truc. Contre les dépressions et grosses dépressions, tous les matins, trois lignes d'assonance en paix. L'assonance en paix, un remède efficace contre l'imbécilité et le mal de vivre. Médicament bienveillant, absolument conseillé avant 6 ans. En plus, l'ordonnance est gratos, ça enrichit même. Ou ce que vous voulez, pas être psychorigide, il y a pléthore de propositions. Parce qu'il n'y a pas que le P sur la plage. Par contre, sous les pavés, on ne sait plus trop ce qu'il y a. Si vous voulez savoir, il n'y a qu'à aller voir. Je causais narvaloterie en tout genre, si vous vous souvenez bien. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est que vous n'avez pas de défaut de la mémoire immédiate. Contrairement au film, au personnage du film réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2000, ça ne nous rajeunit pas. Memento, c'est le titre. Le scénar est pas dégueu si on passe la médiocrité relative du jeu de Guy Pearce qui interprète le rôle du personnage principal, affublé, lui, d'un défaut de la mémoire immédiate. Il y a un travail sur le montage phénoménal. Le gars, alors attention, je poucave, si vous l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles maintenant. Le gars se tatoue carrément sur le corps ce qu'il doit faire, histoire de pas oublier son histoire. C'est rigolo comme idée. Mais le mec s'est adapté à lui-même. En quelque sorte, à sa propre, j'ai un peu de mal à le dire, mais normalité. Pas de mémoire à plus de 3 secondes et des trucs à faire. Qu'à cela ne tienne, je vais me tatouer la liste des courses sur la bite. Bon, j'exagère un peu.
À peine.
Mais c'est juste pour dire que c'était là, sa propre cohérence au type. La solution pour vivre avec lui-même. Et après tout, pourquoi pas ? Because on causait folie, narvaloterie qu'on disait. On a dit ça ? Mais... c'est toujours par rapport à une norme. Alors que foutre de zombies nazis syphilitiques éructés de la bouche purulente d'un purificateur ethnique, la norme, ça n'existe pas. C'est toujours par rapport à quelque chose. Et ça dépend des sociétés ou du temps qu'il fait. À la limite, c'est presque un truc inventé par les humains pour contrôler d'autres humains. Ça dépend des saisons, de la mode. Chez les Grecs anciens, que je cite régulièrement, précise-je, d'accord. La norme, c'était baiser les gosses. Bon, d'accord, on les appelait les éphèbes. Et l'histoire de l'art s'est chargée d'en faire de jolies figures à critiquer un verre de champagne à la main. Verve d'esthète qui se la pète sur les athlètes anciens et de leur verge qui n'étaient pas dans les steppes, mais dans le trou de balle des minots. Parce que dans les faits, c'était ça. Soutenue par une misogynie élevée au rang de culture, en dérive de laquelle le beau ne pouvait être qu'exclusivement masculin, les Grecs y baisaient les mômes. Et c'était normal. Jusque dans les mythes en plus, Achille par exemple, le super-héros hyper invincible, guerrier entre les guerriers que rien ne pouvait vaincre. Soit dit en passant, je vous conseille son tombeau, le tombeau d'Achille, un super bouquin écrit par Vincent Delcroix. Achille donc, héros magnifique que rien ne pouvait vaincre, enfin sauf une malheureuse flèche de rien du tout, d'accord, dans son point faible, son talon d'Achille à Achille, mais quand même, une flèche. Achille, donc, refusait de prendre part à la guerre de Troie parce qu'il s'était pourri la gueule avec ses petits camarades et qu'il voulait pas lui rendre son cadeau, et il est parti bouder dans son coin. Chichile, pour les intimes, avait un chéri d'amour, Patrocle. C'était pas son cousin, mais son mec, ou les deux, en fait, l'intime à question. Mais Patrocle était consumé par une ambition dévorante. Pendant le siège, au pied des murailles imprenables de la ville de Troie, il souhaita mettre en exergue sa valeur et n'écoutant que son courage, non en fait c'était son orgueil, il subtilisa les effets de son amant, l'armure, le casque, les armes d'Achille, il se jeta corps perdu dans la bataille pour prouver la valeur ultime de son existence. Et il est mort. Apprenant le décès de son Patrocle chéri, Chichile n'eut de cesse de vouloir le venger et finalement décida d'aller zigouiller du Troyen. Il s'élança à son tour dans la bataille, à talons perdus, et il est mort. Mais ce que disent les textes au milieu de cette boucherie chevaline, les textes en question, c'est l'Iliade pendue, pas sûr, par Homède, par Homère, merde alors, Homère alors, c'est que Patrocle, c'est un merdeux. Un mouflé, un gamin, un gosse. Et là, du coup, pour notre héros sans peur et sans vomi, Achille, il y a plus que détournement de mineur, c'est pointé. Donc la norme pour les pharaons, à l'autre époque égyptienne, c'était de se marier entre frères et sœurs. La norme entre 1939 et 1945, en France, c'était de poucave les feuges, handicapés, communistes, homosexuels et autres déviants au Troisième Reich pour qu'ils les exterminent et tuent tous les résistants. Ah pardon. On disait terroriste à l'époque. Aujourd'hui, la normalité, c'est bosser dans un taf qui va détruire la planète et surtout bien fermer ta gueule. Tu la ramènes pas, saleté de pauvre. S'il faut hurler, ce n'est qu'avec les moutons, médire des plus pauvres. Et c'est vrai que c'est peut-être le genre de phonème que peuvent inspirer certaines de nos agitations humaines. Berk. Alors, que dire? Que faire? Ne pas fuir? Le faites-vous? Le fais-je? Ah ouais! Petite digression. Pour les interrogations à la première personne, il y a des trucs rigolos à se mettre dans la bouche, hormis la queue de ton voisin ou la cyprine de ta voisine. Ça rime en plus. Genre, le fais-je? Rêve-je? Hallucine-je? Fantasme-je? Que faire? Si on arrêtait de se bouffer la gueule, déjà, si on peut. Parce que de toutes les folles et de tous les fous qui graffite sur cette sublime planète dans ce monde de merde, il y en a des bien, des humains dans notre humanité, je veux dire. Et au-delà, peut-être en deçà, qui sait, d'elle, de cette humanité répugnante et sublime, il y a la nature. Oh. Et alors là, si on tient bargerie ou folie, taréitude extrême même, ce sont des concepts qui deviennent dérisoires par rapport à la démesure vraie de notre réalité. La nature est complètement barge. Le saviez-vous, mes amis de l'onde, que la chose la plus barrée de l'univers dans la nature, c'est l'univers? Aux USA, par exemple, il y a des chercheurs qui travaillent sur des théories sans temps en physique quantique, qui tente d'opérer à des échelles infinitésimales. Remarquez, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, sans temps, puisque toute notre expérience du sensible a l'air temporalisée. C'est une étrangeté toute poétique de la nature. Le philosophe des sciences allemand de son état, Alexandre Coiré, l'avait bien remarqué, lui, et lorsqu'il dit que le pari de la physique moderne, qu'on peut considérer qu'elle commence très peu avec Platon, mieux avec Galilée, beaucoup avec Newton, était d'expliquer le fonctionnement du réel par des lois qui, à la première lecture, vous paraissent impossibles. Expliquer le réel par l'impossible. Oh, quelle merveilleuse image! Et c'est quand même ce qui se passe. Et ça se passe dans une espèce d'espace, merci Perec, où de guerre lasse, le tissu spatial a cessé d'être lisse. Lieu de l'infiniment petit ou du suprême gigantissime. Oh, pour l'échelle infinitésimale, celle qui regarde au-dessous de la ceinture atomique, c'est le seul lieu où l'image a enfin succombé. Enfin! Enfin! La mort de l'image! Bien fait pour sa gueule! Dans un endroit où on ne sait pas quand non plus, ça aussi, c'est rigolo. C'est un quelque part inaccessible à l'expérience le plus souvent. Seule possibilité pour l'espèce humaine de l'appréhender, ce sont les mathématiques. Science exquise inventée par les Arabes en étant hyper réductrice, d'accord. Et le truc de ouf encore, c'est qu'on décrit d'une façon très réduite, hein, bien entendu. D'ailleurs, c'est à partir du moment où la science a su limiter ses ambitions qu'elle est devenue efficace. Une partie du fonctionnement de la nature avec des équations. Autrement dit, les mathématiques, qui ont prédit certaines des lois qui régissent notre cosmos et derrière elles de véritables objets physiques, je pense aux neutrinos, par exemple. Eh, petite digression sur les neutrinos, viteuf.
Quoi ? Encore ? Mais tu le fais exprès ?
Oui, chut, tais-toi. Le neutrino a été prédit par un certain Pauli. Ça sonne Rital, ce qui serait pas étonnant à voir tous les génies physiciens issus de ce peuple, mais non, il s'appelait Wolfgang et il était autrichien. Dépressif, à l'époque. Parce que sa rombière l'avait plaqué pour un chimiste et du coup, il a pété les plombs, le physicien autrichien, à se bourrer la gueule au rouge que tu pisses et déclencher des bastons à 4,5 grammes dans les rades les plus infâmes de Vienne. Pour de vrai. Bienvenue en enfer dans la tête à Wolfgang. Le neutrino, lui, c'est une particule élémentaire postulée par le dit Pauli pour expliquer le spectre continu de la désintégration bêta. C'est là-dessus qu'il bossait, l'autrichien dépressif. En gros, dans notre corps, il y a du potassium 14, un résidu d'étoile qui a explosé il y a des milliards d'années, comme beaucoup de choses dans notre organisme. Quand ce potassium 14 devient du carbone 14, il y a émission d'un électron et d'un neutrino, qui est elle-même son antiparticule. On est toutes et tous radioactifs, de l'ordre de 1000 becquerels, si je dis pas de conneries. Et ce truc, le neutrino, antineutrino, les physiciens de l'époque, ils voulaient pas y croire à son existence, because ils étaient plus ou moins bornés. Et aussi que Pauli rompt comme une queue de pelle 23 heures par jour, il avait perdu un petit peu de sa crédibilité. Rien à carrer, qu'il se dit Pauli. Il se biture encore une fois la tronche et rédige une lettre d'insulte à toute la sphère scientifique de l'époque, en commençant par ces mots. Cher peuple radioactif, s'ensuit la démonstration théorique de l'existence du neutrino et d'une tartine d'insultes qu'on croirait pas qu'un pareil savant puisse utiliser. Après quoi, Pauli se barre rejoindre Fermi, physicien Rital encore, davantage respecté parce que plus sobre peut-être, en Suisse, et le convainc de la réalité du neutrino. Et c'est l'italien Fermi qui le baptise d'ailleurs, le petit du neutron, le neutrino.
Ah là, ça y est, t'as fini ta digresse, c'est bon!
Absolument. Tout ça pour dire que le dépressif Pauli que j'évoquais tantôt a prédit l'existence d'un nouvel objet physique, as I said, avec les maths. Autrement dit, les mathématiques font figure de véritables mobiliers ontologiques, capables de déceler la véracité matérielle de particules dont on ignorait jusqu'alors l'existence. C'est presque miraculeux. L'efficacité des maths en physique. Et si je surenchéris chérie, je dirais que l'énoncé de ces équations, ce qu'elles raconteraient si elles pouvaient parler, à la première occurrence, est absurde. Comme l'a si judicieusement fait remarquer Coiré, le philosophe des sciences allemand que j'évoquais tout à l'heure, si vous voulez bien vous souvenir, si vous voulez pas, tant pis, les lois physiques, quand vous les dites la première fois, sont complètement impossibles ou contraires à l'observation, genre... Tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Prédiction de Galilée à qui l'Église catholique en a fait bien baver. C'est contraire à l'observation sur Terre, puisqu'on a une atmosphère. Enfin, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Eh bien, c'est juste. Tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ou bien qu'il existe des particules de matière qu'on peut considérer comme baryoniques, mais de charge inversée. L'antimatière, prédite par le Britannique et néanmoins autiste Dirac. Ou encore que la masse n'a absolument aucun lien avec la substance. Dixit, Englert, Brutz et Higgs, il y a presque 50 piges, lorsqu'ils ont prédit l'existence du boson de Higgs qu'on a identifié au CERN en 2013, jusqu'aux dimensions mêmes de notre cosmos. 13,7 milliards d'années-lumière. Une année-lumière équivaut, grosso modo, 10 000 milliards de kilomètres. Pour compter jusqu'à un milliard, il vous faut plus de 33 ans. Mais ça, c'est l'univers observable. Parce qu'il y a un autre truc de ouf encore ! C'est que la courbure de l'espace-temps est égale à zéro, c'est-à-dire nulle, plate, pile, poil, zéro. Alors que toutes les mesures auraient été possibles et envisageables. Non, c'est zéro, tout rond, trop bizarre. En fait, c'est un peu si, comme un acarien, vous se trouvez sur un ballon de baudruche et qu'il aurait eu envie de dessiner un carré. Je sais, c'est une drôle d'idée pour un acarien. Il verrait ce carré plat, mais parce qu'il est tout petit et qu'il n'a pas accès aux dimensions réelles du ballon. Eh bien, c'est ce que ça veut dire, cette histoire de courbure spatio-temporelle nulle, que nous n'aurions accès qu'à une infime partie des dimensions justes de notre cosmos. Oh, hallucinant. La nature est complètement barge. Mais il n'y a pas que. Des quasars, objets quasi-stellaires et si singuliers, en passant par les trous noirs énigmatiques, réalités cosmiques, ou les particules élémentaires et leur état superposé. L'influence de l'observation sur les données expérimentales, l'intrication quantique, le vivant et ses lois biologiques, hors la loi, la conscience. Beauté inexplicable de notre condition. La nature est complètement barge. Faisons-lui honneur, en conscience avec le miracle de la conscience. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, d'ailleurs? Je sais pas. Il y a des propositions, se dire ne plus jamais baisser la tête, tant pis si on l'a déjà fait. Ignorer les lâches, les stromons, buter si vous êtes cap. Non, je plaisante. Écrire tout part, surtout sur les internes parois de nos crânes et sur les murs cognitifs qu'on n'a pas encore réussi à faire péter. Défendre les plus fragiles, pourquoi pas? C'est clair, d'ailleurs, pourquoi pas? Toutes les propositions sont acceptables, faramineuses ou foireuses. Parce que lorsque je parlais de cerveau intramuros tout à l'heure, c'était pas qu'une licence poétique, pardonnez du peu. Mais les cloisonnements en question existent bel et bien, moche et mauvais si vous préférez. Because qu'on les a installés, bétonnage intensif à grands coups de procédés socio-économiques avec des projections, des prévisions, des outils, des écrans. Objet délétère entre tous qu'on nous a refourgué sans même nous demander notre avis, à l'injonction à la consommation, ou bien la mise en guerre avant la bière, montrer les gens et les monter les uns contre les autres, histoire que tu te sentes surtout jamais trop à l'aise dans tes baskets. En passant par les molécules, et oui encore, pastilles en tout genre qui ravagent la personnalité en zombification légale, genre. Dans les HP, on drogue les patientes et les patients pour éviter à avoir à leur taper dessus. Au ballon, on drogue les prisonnières et les prisonniers pour qu'ils se tiennent bien tranquilles. Au quotidien, on drogue les bambins actifs pour éviter d'avoir à les éduquer. Au demeurant, on drogue les citoyens et les citoyennes pour bien les contrôler. Il y a des magasins spécialisés pour ça en plus, ça s'appelle des pharmacies. Laquelle opiumanisation généralisée est doctement parrainée par toute une tripotée de labos pharmaceutiques franchement inhumains qui ont oublié, ou se foutent royalement, qu'ils bossent avec de la matière humaine, elle. L'érection de ces murs, c'est pas une jouissance. On causait drogue légale, mais on hésite encore à se répandre dans les salles de chute. Pff, initiative d'une rare compétence d'ailleurs, saine et intelligente. Il n'y a qu'à regarder l'expérience portugaise si vous ne me croyez pas. Non mais quelle incommensurable mauvaise foi, sa race. Niveau projet de société, il y a aussi mettre en place la haine du pauvre contre le très pauvre. Et bien entendu, il faut quand même un coupable, un bouc émissaire, figure indispensable, liant excrémentiel qui nous arrache toutes et tous dans la même et nous attache dans l'extrême même, dirais-je, merde, et que c'est la faute de l'autre. Pour l'autre en question, ça dépend des saisons. Ce fut le juif, le rital, l'espingouin, le renois, l'islamiste, toujours, ah, ça marche bien l'islamiste. Arabe, melon, bico, j'en passe. Il y a aussi la mode du polonais, plombier de son état, qui va venir bouffer ta femme et baiser ton pain, truc dans le genre. Et voilà, tout est parfait, super, bien organisé pour faire en sorte que tu vives en enfer. Eh ben non, rien du tout, que dalle, me laisserait pas pourrir mon paradis. C'est quoi la solution à 7 milliards d'individus? Je sais pas. C'est peut-être ça, le nombre. Celui qu'on essaye de contrôler, de contraindre, d'enfermer, apprivoiser, terroriser, exterminer et à défaut de soumettre. Le nombre. Alors, mes amis de l'onde, on reste ou on devient, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, barré. Où on se barre comme la belle Adèle.
C'est pour mes regards sombres qui baladent leurs emmerdes tard le soir, solitaires et rarement sobres. C'est pour les oiseaux de passage cloués au sol. Ma sale génération, Ginner Max. Autodidacte du foot, du basket ou de la boxe. Mes cas sociaux, mes survivants, des allocs ou de la cave. Efficacé pour tous les gosses de la déroute, les lascars et les apaches. Tous les résus en cage, aux appartes insalubres, aux ascenseurs en panne. Aux galères de thunes insolubles, à ce qu'on tient à la traîne. À nos nuits blanches et nos jours gris. Tout ce qui rappelle que ce monde n'est pas le nôtre et qu'on en crève. À ceux qui passent la trentaine sans rêver d'un taf et d'un môme. Ceux qui tiennent le coup à mes pare-chocs. En première ligne quand ça barde, quand faut se taper pour un SRAM. C'est atome aux échymoses. Au commerce illicite, à tout ce qui remplit nos poches. Aux gueules marquées par la vie qu'on dissimule sous des capuches. Aux crapules, aux resquires et aux petites frappes. À nos symphonies du bitume, aux acharnés du rap. Aux marécages, au fond des têtes, aux zones d'ombre et aux défaites. Aux substances qu'on inhale pour pas réveiller la bête. Pour la meute et tout ce qui nous tient debout. Mes galériens et mes bâtards, mes chiens errants et mes pitbulls. C'est pour nous fourrir de gosses allergiques aux pions et aux profs. Au taf et au keuf, puis au ch'tard et au pro. C'est pour la nuit, les rues de ma ville, c'est pour le deal et les bracos. Mes junkies, mes toxos, mes chamas et mes clandos. À nos soirées à l'arrache, à nos défenses. À nos erreurs, à nos vertiges et nos errances. C'est pour les skins, on la serre rouge et les darons que le souci ronge. Au gamin trop zaf, à toute le canine à serrer. C'est pour mes banlieues arts, mes blousons noirs. Mes pilleurs de banque, mes piliers de bar. Mes graveurs sonars, ferrailleurs et crevards. C'est pour les sales mômes.
C'est pour mes singes, pour celles et ceux qui nous ressemblent, qui saignent, qui se lèvent. C'est pour mes singes, parce qu'on n'a rien sans, parce qu'on n'a pas le choix des armes.
C'est pour mes singes, qui saignent, qui savent, qui se lèvent, qui s'arment. C'est pour mes singes, parce qu'on n'a pas le choix des armes. C'est pour mes singes, qui saignent, qui savent. Parce qu'on n'a pas le choix des armes et plus la rage que.
C'est pour mes animaux, les âmes damnées, les âmes battées. Que la rodka n'a pas de plus, ceux qu'on captait, que la liberté n'a pas de prix. Je ferai pas un pas de plus, même sous les coups de patron. C'est pour mes toxos, mes intellos, mes ex-dollars. Mes narvalos, mes boxeuses. Celles ceux qui aiment quand c'est le boxon. Les bonobos qui ken sous les bombes. Les babouins arrachés à la brousse. Les rats de la peau pour les trains de vie RSA. Les serveurs à laisser. Les relous de fin de réseau. Les quartiers délaissés. Mes alliés et tous les aliens de la machine à trier. Les tronches de Vertras. Les envies de crever au réveil et de crier dans la rue. Les déserteurs du travail. Taciturne, comme la plupart de mes semblables. En vrai les thunes, je m'en tape. Plutôt mes 10 potes que tes 100 plaques. A tous les sales pauvres, les 100 pas. Pas ceux qui font les 100 pas, les innocents, les coupables. Avant c'est né à Sainte-Anne, aux couches tarées aux lèvres trop tôt. Qu'on sort du lit avant l'aurore pour des salaires insultants. Les bagarres, les cuites au rhum. Les deux squats, les cantas, les cutéreux. C'est pour les causes perdues, les gosses hyperactifs. Les angoisses et les morts sous, les gueules c'est qu'à les saltir. Les morsures à l'homme et les pendus à l'arbre. Les sommeurs qui serrent les tripes, les cicatrices à l'encre noire. À ceux qui tiennent leur langue, pas pour les grandes bouches. Ceux qui traînent dans l'angle mort, ad vitam sur le banc de touche. Pour de la haine plein le cartable. À ceux canés par la flicaille, dans un fourgon, sur un scooter ou en cartable. À tous les macaques de caniveau, les renégats, les hooligans, les faits divers du parico. Les galères, on en rigole autour d'un verre de Trois-Rivières. Allez, c'est pas si grave, ma gueule. Les alcooliques, mes athlètes, mes low kicks, mes clés de bras. Et les clébards qui bloquent sur des capsules de bière forte. C'est pour mes singes, pour celles et ceux qui nous ressemblent, qui saignent, qui se lèvent. C'est pour mes singes, parce qu'on n'est rien sans, parce qu'on n'a pas le choix des armes.
C'est pour mes singes, qui saignent, qui savent, qui se lèvent, qui s'arment. C'est pour mes singes, parce qu'on n'a pas le choix des armes. C'est pour mes singes, qui parce qu'on n'a pas le choix des armes et plus la rage que.
Ce morceau le plus bienveillant de l'univers, c'est Pour mes singes. c'est le titre du morceau, interprété par la team Singe des rues, un rap pas dégueu qui fait des dégâts. Donc, la transition est pourrie, qu'on disait tout à l'heure, plus on est de fous, moins il y a de raisonnables et c'est déjà pas mal. Et l'histoire, today, c'est celle d'une femme qu'on croyait folle. Ou pour être plus précise, qu'on taxait de folle. Comme celles et ceux dont on veut se débarrasser, en fait. Seule contre tous. La gonzesse, c'est Cassandre. On a dit qu'elle était barge parce que personne ne voulait prendre la responsabilité d'écouter ses mots. À se retrouver un peu dans la peau de certains climatologues et autres scientifiques de ces dernières décennies. Cassandre, ses contemporains assuraient qu'elle racontait que des conneries, alors que pas du tout. C'est Euripide, tragédien grec du 5e siècle avant Jean-Claude, qui en parle dans ses Troyennes, c'est le titre de la pièce. Cassandre, c'est la fille de Priam, le roi de Troie, la méga ville qu'on pouvait pas conquérir et que Chichil, dont on causait tantôt, aurait voulu prendre après son petit cousin. Déjà, Cassandre, c'est pas n'importe qui, hein. C'est la frangine de Paris, un des 50 fils de Priam, ouais, 50, le roi de Troie, Priam. Je sais pas si vous savez, mes amis de Londres, c'est Priam, Paris, c'est le petit con qui est allé chourave la régulière de Ménélas, le roi de Sparte, la belle Hélène, pour la ramener dans sa ville de Troie. Ça, c'est le prétexte au début du siège de Troie. Avant de continuer l'histoire, j'aimerais préciser que chez les Grecs anciens, outre la pédophilie, j'ai pas dit outre, leur mythologie prône le viol. Mais c'est ce qu'il fallait faire avec les gonzesses, et c'est ce que font les dieux la plupart du temps. On retrouve cette idée dans presque tous les mythes. Quand un dieu désire une rombière, le Cœur, entre autres, c'est Zeus hein, en général, il prenait pas quatre chemins pour lui faire sa cour, il courait après et il la prenait. Si t'es pas contente, c'est pareil. Voilà, efficace, moi, la méthode de reproduction. De Dadané, mère de Persée, en passant par Europe, et j'en passe, on leur a pas demandé leur avis aux nanas. Preuve exquise de l'attention appliquée qu'on porte aux femmes depuis l'aube du monde, merci. Mais Cassandre, elle a essayé de pas y passer. Voilà, perdue, mais... Elle était réputée pour sa grande beauté. La seule chose qu'on pouvait considérer chez une gonzesse, hein, bien sûr, et Apollon... Le dieu de l'amour et des arts et des lettres succomba, nous dit Euripide, à cette insolente plastique. Il s'en fut la trouver avec un marché, son cul, à Cassandre, en échange du don de voyance. Purée ! Dut se dire Cassandre. Si j'ai le don de voir ce qui va se passer dans l'avenir, en considérant que le futur existe déjà dans le présent, je pourrais taper une grille de PMU, rafler la mise et me la tchave loin de tous ces connards misogynes ! Truc dans le genre. Mais bon, d'un autre côté, Cassandre avait pas forcément envie de passer à la casserole, non plus, Dieu ou pas Dieu. Mais elle accepte, enfin. Elle feint, afin d'affiner son effet fou de fialerie. Ok, d'accord, vas-y, file-moi ton don, je te filerai ma chatte. Apollon claqua de super doigts de super Dieu et donna à Cassandre le don de prophétie. Miracle de cognition, s'il en est fini, les coups de marteau sur les doigts, les journées pourrites par un événement imprévu, l'arrivée intempestive de ton beau fréa qui est décérébré. Cassandre savait tout. Elle pouvait tout prévoir, y compris les chiffres exacts du PMU à venir, qu'il rêve de tout humain sur cette planète, là, va sans dire. Et c'est en se rendant au café du coin pour gratter sa grille salvatrice qu'Apollon l'interpelle. Eh oh, t'oublies pas un truc, là ? Ah ouais, c'est vrai, répondit Cassandre un brin emmerdé. C'est que j'ai une migraine atroce là, j'ai mal à la tête. Et puis les Vikings ont débarqué, je suis un peu pressée, tu vois, le PMU va fermer, alors on est passé à l'heure d'hiver, il fait nuit tôt, tu comprends, enfin, Non. Ben, non. Apollon, il a pas compris, mais alors, pas du tout. Il a quand même eu la délicatesse de pas la violer en lui disant de bien fermer sa gueule, mais il avait déjà filé son don de voyance. Et il pouvait pas lui retirer, en plus. Et elle, insignifiante, mortelle, sans importance, elle a osé lui mentir et l'escroquer. Quelle audace, sa race ! Appétant, j'arrive même pas à le prononcer, tellement il était furieux, Apollon. Mais hors de lui, exactement comme moi et les mots qui ne veulent pas sortir hors de ma bouche. Et Cassandre a visiblement pas prévu de plan B. C'est con. Faut toujours un plan B, à défaut de plan Q. Et le dieu de l'amour va bien lui faire payer son outrecuidance à Cassandre. il va chercher bien au fond de sa gorge, en raclant le mieux qu'il pleut, toutes les merdes restées de son Covid, de ses trois rhumes précédents, il forme un gros molard. Il le crache dans la bouche de Cassandre. Oh, je sais, c'est dégueulasse. Il savait qu'il ne pouvait pas retirer le don qu'il venait de lui faire. Alors, il lui a craché dans la bouche pour lui retirer tout pouvoir de persuasion. Cassandre savait le destin, mais personne ne croirait ses mots. Plus personne, plus jamais. Et c'est une condition, somme toute, atroce que de connaître les horreurs à venir sans que personne ne vous croie. Souvenez-vous, mes amis de Londres, que Cassandre était la sœur de Paris. Elle savait qu'il allait revenir de chez Ménélas avec Hélène et que ça allait foutre la merde dans sa ville de Troyes. Elle tenta de prévenir Éon, la régulière de Paris, du désamour de celui-ci, mais Éon s'est bien foutu de sa gueule et l'a envoyé se faire voir chez les Grecs. Grec d'ailleurs bien dissimulé dans le ventre de bois de la statue gigantesque d'un canasson qu'ils ont utilisé comme une ruse afin de pénétrer, ah oui, les murs imprenables de la cité troyenne. Parce que, j'ai pas précisé, mais les Grecs en avaient ras la patate de squatter les pieds des murailles de Troie, construites en béton armé de 200 mètres d'épaisseur, impossible à en prendre, c'est le bordel. Ulysse aux mille ruses. Chez les Grecs, a proposé de fabriquer un énorme cheval cadeau, comme un cadeau, d'y dissimuler tous ses potes à l'intérieur, d'attendre la nuit, après que les Troyens aient fait rentrer le cheval dans la cité, pour zigouiller tout le monde. Super plan. Mais tout le monde n'a pas accueilli le soi-disant cadeau à bras ouverts dans une allégresse généralisée, non. Cassandre, elle, savait ce que contenait le cheval. Elle a essayé de prévenir ses concitoyens, trop cons, hein, du coup, les citoyens de Troie. Et plus elle poussait à l'invective, et moins elle était prise au sérieux. Arrêtez ! Il y a des Grecs armés jusqu'aux dents dans la statue. Ils vont attendre que tout le monde soit endormi pour ouvrir à leurs copains et tuer tout le monde. Stop, stop ! Brûlez ce cheval maudit ! Eh, mais purée, dégage ! Bon, les Troyens, pour leur propre perte, n'ont pas cru Cassandre. Et moins elle était prise au sérieux, plus elle pétait un plomb. Et plus elle pétait un plomb, moins elle était prise au sérieux. Et là, la raison succombe à elle-même. Pas d'issue possible. Enfin si, une seule. Parce que Cassandre connaissait jusqu'à sa propre mort, après avoir été violée par Ajax dans le temple d'Athéna, sympa hein, les Grecs. Bon, pas par un dieu, mais violée quand même. Cassandre, pourtant, s'est pas cassée. Même incomprise, elle a tout de même tenté de prévenir ou d'empêcher le massacre. Elle a sacrifié sa vie en sachant que c'était inutile. Est-ce déraisonnable que de vouloir être qui on est, tout au creux du cœur du monde, ou bien au contraire, envers et contre tous ? Aujourd'hui, les gamins ou autres créatures qui braillent que la terre est en train de crever, on leur crache dans la bouche ou on leur prend des morceaux de corps, moins subtils si j'ose dire, mais très efficaces aussi. Hein. Mes amis de Londres, finissons-en avec les Cassandres et que ces cendres renaissent, les fous, les folles aussi. Et vive la Gay Pride! Et moi, je vous dis à bientôt sur cette planète.